La gioia è un'arte, è come un mestiere, tutti i giorni, da farsi tutti i giorni, sempre poter amare la vita e la bellezza del mondo, nonostante qualsiasi accadimento.
La joie, c'est un art, la joie, c'est un métier dans lequel il faut persévérer, il faut savoir apprécier la beauté du monde, quels que soient les événements. Ce sont les mots que vous venez d'entendre en italien, les mots d'Angelo. L'art de la joie, ami rêveur, c'est une promesse. L'arte della gioia, c'est aussi le titre d'un de mes romans préférés. Un hymne à la liberté, à l'insoumission et à l'affranchissement. C'est un livre maudit, pour lequel son auteur, Sapienza Goliarda, a tout sacrifié, happé par la nécessité d'écrire cette histoire, son chef-d'œuvre, l'art de la joie. Pourtant, en Italie, personne ne veut la publier. Angelo, son mari, s'est battu pendant 20 ans pour que le livre soit édité. Et quand il sort enfin en Italie, Goliarda Sapienza est morte depuis 2 ans. L'art de la joie passe totalement inaperçu. Et Goliarda demeure une auteure méconnue jusqu'à cette rencontre inattendue entre ce texte et Nathalie Castagnier, traductrice d'italien. Coup de théâtre, coup de cœur, Nathalie Castagnier est saisie par ce qu'elle lit. Elle n'hésite pas une seconde. Il faut traduire ce livre à tout prix et arracher Sapienza Goliarda à l'oubli. À sa sortie en France, c'est un succès extraordinaire. C'est la consécration. L'art de la joie a sorti Sapienza Goliarda de l'ombre. Jusqu'à 21h, c'est le récit de cette belle aventure avec Nathalie Castagnier, la traductrice de Goliarda, celle à qui l'on doit la découverte en France de cet auteur tragique et magnifique.
En janvier 2004, je commence ce livre et dès la première phrase, il me happe complètement. Et en effet, je continue ma lecture avec le cœur battant d'ailleurs parce que c'est quand même un livre très très long. Et j'espérais, après avoir lu la première partie que j'estime un chef-d'œuvre absolu, que je n'allais pas être déçue. On ne sait jamais. Et puis non. Et puis il y a des choses magnifiques dans tout le livre. Et donc j'ai fait ma note de lecture complètement enthousiaste.
Alors, j'étais vous avez dit
j'étais
quoi
survoltée. Hein.
C'est ça.
J'étais complètement survoltée. J'en parlais à tous mes amis.
Et vous avez écrit quoi? Chef-d'œuvre à traduire absolument.
J'ai écrit qu'il fallait absolument traduire et publier parce que dans des temps de conformisme grandissant, à mes yeux. Il était bien, enfin d'abord c'était un chef-d'œuvre, mais en plus il était bien d'entendre une voix pareille.
Donc vous avez lu ce livre en pensant que l'époque avait besoin d'un livre comme ça?
J'ai lu ce livre qui m'a séduite aussi par sa liberté complète par rapport à tous les dogmes. J'entends les dogmes littéraires aussi bien que les dogmes moraux. Et ça m'a semblé devoir être connu du plus large public.
Donc c'est grâce à vous?
Mais c'est grâce à moi, ça, j'en suis très fière. j'en suis très, très, très contente, très fière.
Juste avant qu'on rentre un peu plus dans ce roman, je regarde à nouveau cette couverture de l'original, donc en italien, oui. Que vous avez traduit. Et là, il y a écrit « hérétique », c'est ça ?« Hérética », ça veut dire ?
Oui, « hérétique », oui. Enfin, « ce qui est hérétique ».
Ce qui est hérétique. Oui. Donc, il y avait écrit que c'était « anticlérical mais... » et « hérétique »,
la collection je pense hérétique. C'est collection, oui. Et en effet, il y avait « romanzo anticlérical ». Mais je vous dis que moi, j'ai interprété, je pense tout à fait à juste titre, comme « contre toutes les églises et tous les dogmes ».
Alors, parce que très vite, avant de revenir sur ce livre, si on doit parler de son auteur, de Sapienza Goliarda, elle a deux parents extraordinaires.
Eh bien oui, elle a un héritage tout à fait atypique et exceptionnel aussi, puisque ses parents, l'un et l'autre, étaient des militants socialistes, anarchistes, disons libertaires. Sa mère était une grande militante syndicaliste. Elle a dirigé des luttes, des grèves. Elle a été en prison je ne sais combien de fois. En Sicile, où elle a rencontré donc Giuseppe Sapienza, qui devait devenir le père de Goliarda, et qui était lui-même un avocat, mais qu'on appelait l'avocat des pauvres. C'était un homme très, très engagé aussi. Donc Giuseppe Sapienza a été lui aussi un militant.
C'est aussi pour ça que c'est un très beau roman dans l'art de la joie. Oui. C'est que c'est un livre politique, c'est un livre très politique. Et ça, c'est l'architecture même du livre. Hein. Je ne sais pas si vous êtes d'accord.
C'est également, bien sûr, c'est également un livre politique. Voilà. Elle a rassemblé, enfin, ce que je trouve extraordinaire dans ce livre d'ailleurs, c'est qu'elle a rassemblé cet héritage qu'elle n'a jamais renié, tout en le subvertissant. Quand j'avais écrit ma note de lecture précisément sur cette première édition, il y avait écrit « Romanzo anticléricale ». Roman anticlérical, mais comme je l'ai écrit parce que c'était important de le dire, c'est pas seulement un roman anticlérical contre l'Église, c'est un roman anticlérical contre toutes les Églises. Parce qu'à un moment, elle compare le communisme à une Église. À une Église avec les images de saints et tout ce qu'il faut.
C'est formidable.
C'est extraordinaire. Extraordinaire.
Elle est tellement juste.
Absolument.
Hein?
Oui, oui. J'ai adoré ça. Je dois dire que précisément cette liberté par rapport à tout, c'est quelque chose d'extraordinaire.
C'est un livre sur la liberté. Pas d'entrave, pas d'entrave, pas d'entrave, quelle qu'elle soit.
Je ne sais pas si maintenant apparaît un texte de Angelo Maria Pellegrino à la fin du livre, je ne sais plus, mais dans la première édition de 2005, Angelo rappelle que Goliarda, reprenant son texte, avait écrit « Goliarda, attention à l'autocensure ».
Donc elle avait mis un petit écriteau, hein, c'est ça, devant elle, oui. En disant « attention à l'autocensure ». Ça, c'est génial.
C'est parce que oui.
Et c'est ça qu'on sent, c'est que... Alors là, il ne faut pas faire de confusion entre le personnage principal, Modesta, et l'auteur, donc Goliarda Sapienza. Mais ce personnage principal aussi fait toujours attention à ce qui pourrait l'empêcher d'être et de penser librement.
Absolument, oui.
Toujours.
Absolument. De toute façon, je pense que... Il y a beaucoup de Goliarda dans Modesta, et Modesta, c'est la force qui va. Enfin, c'est vraiment la force vive, la volonté, la liberté.
Jusqu'à 21h, une heure pour nous affranchir de toutes nos entraves avec Nathalie Castagné, première lectrice et traductrice de L'Art de la Joie de Sapienza Goliarda.
Sole alla valle, sole alla collina. Le campagne non c'è più nessuno. Addio, addio, amore. Io vado via. Amare terra mia, amare bella. Speranza. Addio, addio, amore. Io vado via. Amare terra mia, amare bella. Un bimbo piange a latta, un seno magro.
Est-ce que vous pouvez me lire, vous me dites cette première phrase, vous m'avez parlé de la première phrase en me disant j'ai lu la première phrase et j'ai été happée. Est-ce que vous acceptez de me lire en italien?
Je vais essayer.
Merci.
Ed eccovi me a 4-5 anni in uno spazio fangoso che trascina un pezzo di legno immenso. Non ci sono né alberi né case intorno, solo il sudore per lo sforzo di trascinare quel corpo duro e il bruciore acuto delle palme ferite dal legno. Affondo nel fango sino alle caviglie, ma devo tirare, non so perché, ma lo devo fare. Lasciamo questo mio primo ricordo così com'è. Non mi va di fare supposizioni o diventare. Voglio dirvi quello che è stato senza alterare niente. Je veux vous dire ce qui est sans rien altérer.
C'est ça la dernière phrase.
Mais ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est « Ed eccovi me a 4-5 anni », etc. Parce que en fait, j'ai mis « eccovi me » et « me voici à vous ». C'est-à-dire, j'ai mis « et voyez, me voici » pour montrer qu'immédiatement, il y a un rapport complètement noué avec le lecteur.
Alors, attendez. Je regarde en français. Hein. Oui. Je sais que ça commence par « voyez ». Et voyez, me voici à 4-5 ans, traînant un bout de bois immense dans un terrain boueux. Il n'y a pas d'arbres ni maisons autour, il n'y a que la sueur due à l'effort de traîner ce corps dur et la brûlure aiguë des paumes blessées par le bois. Je m'enfonce dans la boue jusqu'aux chevilles, mais je dois tirer. Je ne sais pas pourquoi, mais je dois le faire. Laissons ce premier souvenir tel qu'il est. Ça ne me convient pas de faire des suppositions ou d'inventer. Je veux vous dire ce qui a été sans rien altérer. L'art de la joie, Sapienza Goliarda.
C'est très mystérieux.
Ouais.
On se dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Qu'est-ce qui se passe là? En fait, c'est une petite fille.
Ouais.
Donc, elle ne peut pas en dire tant que ça. Enfin, elle dit juste, en effet, voilà, je suis en train de tirer un morceau de bois dans la boue. Et puis, voilà, mais ça ne me va pas de raconter, d'inventer, d'imaginer à partir de ce que j'ai vécu. Je vais dire les choses très directement. Effectivement, elle va les dire très directement tout le temps.
C'est ça. Les choses sont dites. Il n'y a jamais, c'est jamais aucune...
Enjolivure.
Rien.
Pas d'enjolivure. En revanche, une dimension que je trouve quasiment sacrée à certains moments. Par exemple, dans les histoires avec Carmine, une espèce d'initiation, une initiation sexuelle. Ensuite, ce n'est plus une initiation, c'est une rencontre. Quelque chose d'un peu panthéiste, disons. Voilà, il y a quelque chose de panthéiste. Elle a un sens de la nature absolument extraordinaire aussi, qui vient se glisser dans les rapports humains. Et je trouve que ça aussi, c'est une des choses magnifiques de ce livre.
La nature, vous avez tout à fait raison. Et ce Carmine, c'est un homme de la nature, celui qui va lui apprendre à avoir du plaisir avec son propre corps, qui va lui faire découvrir sa propre jouissance, qui est un personnage absolument magnifique.
C'est un personnage fabuleux, c'est un garde-chasse en fait. Carmine, c'est quelqu'un de plus violent. D'ailleurs, il lui fait peur au départ. D'ailleurs, c'est très intéressant qu'il lui fasse peur. Bien parce sûr. Qu'elle comprend, et elle, avec une intelligence extraordinaire d'ailleurs, elle comprend que s'il lui a fait peur, c'est qu'elle le désirait. C'est un personnage vraiment extraordinaire, je trouve. En effet, quelqu'un qui échappe totalement à ce qu'on peut imaginer du Sicilien. Alors là, elle va complètement à contre-courant, parce que c'est un homme qui lui apprend le plaisir, en effet, à Modesta, et en lui disant « tu vas être une femme puissante, c'est ainsi que je t'aime, c'est pas une femme soumise, c'est une femme puissante ». Et la jouissance, c'est aussi la puissance que découvre la force, la puissance, la joie que découvre Modesta. Et c'est là qu'il y a en effet ces rapports avec la nature, avec l'Etna, enfin avec la Sicile, avec ce qu'est la Sicile, entre la mer, le volcan, la lumière, la nuit, enfin toutes sortes de choses qui sont très très présente aussi dans
la
dans
mer, est tout le temps là.
Et c'est vrai que ça compte beaucoup, la présence de la mer, oui.
Et je voulais revenir sur une chose que vous avez dite autour de ce personnage de Carmine, donc que rencontre Modesta, qui est le personnage principal de ce roman. Vous dites qu'au départ, Carmine lui faisait peur. Et elle a compris que c'est parce qu'elle avait peur qu'elle le désirait, enfin que son désir était lié à la peur. Mais ce qui est très beau, je trouve, dans tout le roman aussi, c'est que cette Modesta s'interroge sur ses propres peurs. C'est-à-dire qu'elle veut toujours comprendre et savoir ce qui lui a fait peur pour ne pas être assujettie à ses peurs.
Absolument.
Et elle ne veut pas être assujettie à ses peurs comme elle ne veut pas être assujettie à rien.
Voilà, exactement. Et c'est vrai que ça, c'est une chose très très présente dans le livre. Elle analyse, c'est quelqu'un qui analyse beaucoup, en même temps qu'elle va de l'avant dans l'action, mais elle analyse, elle ne se laisse pas, voilà, quand elle découvre que quelque chose l'a arrêtée, l'a inquiétée, lui a fait peur, elle fait en sorte de surmonter ça, par l'analyse aussi.
Pour que ça ne se reproduise pas.
Exactement, oui.
Je ne sais pas comment on peut parler de ce livre. Il y a ce personnage Modesta, on pourrait en parler des heures, tellement c'est un personnage magnifique. Mais qu'est-ce que vous diriez avant tout? Qu'est-ce que vous diriez? Vous parleriez de quoi? De liberté?
Oui, je parlerai de liberté. Pour moi, c'est un roman de la liberté, de la volonté aussi.
Oui, vous avez raison.
Selon moi, pas du tout de l'amour. Je pense qu'il y a beaucoup d'amour, avec un S. Oui. Elle tombe amoureuse très très souvent. Modesta, mais elle ne se laisse jamais avaler par ça, prendre complètement par ça, à l'exception peut-être de l'histoire avec une psychanalyste, Joyce, que ni l'une ni l'autre nous n'aimons beaucoup.
Non, moi j'aime pas du tout,
oui,
ce personnage.
Mais sinon, elle retrouve une liberté fabuleuse en prison avec une certaine Nina Romaine, qui est un personnage extraordinaire.
Génial.
Oui. Et puis, il y a la fin avec Marco, mais il y a énormément d'amour. Il y a des amours diverses, d'ailleurs, puisqu'il y a l'amour pour les enfants aussi, pour la famille qu'elle réunit autour d'elle. Mais c'est, enfin, pour moi, ce n'est pas du tout le thème de l'histoire. Le thème de l'histoire, c'est vraiment la liberté.
C'est la liberté, c'est l'affranchissement.
Oui, absolument. L'affranchissement, oui.
En fait, cette Modesta naît très pauvre dans une famille où elle n'est pas aimée, hein, avec une sœur débile, une mère complètement prise.
Assujettie.
À sa sœur et à sa maladie.
Et à tout ce qu'on lui a mis dans la tête, en plus. Oui.
Parce que ça parle autant de ça, hein, que de ce qu'on nous a mis dans la tête et de quoi il faut nous affranchir.
Absolument, oui.
Que du reste.
Oui.
Et c'est en ça que c'est un livre génial.
Oui, absolument, je suis d'accord.
Vous
aussi.
Êtes d'accord avec ça aussi. À votre avis, qu'est-ce qu'elle veut? Vous dites que c'est un livre de volonté. Moi, je l'entends aussi un peu comme ça. Elle veut, moi, j'ai noté sauver sa peau, quoi. Et tous les moyens sont bons pour s'en sortir. Parce que c'est quand même ça, ce qu'on a.
C'est-à-dire qu'au départ, absolument, c'est exactement ça. Elle prend tous les moyens pour sauver sa peau. Et ça veut dire 3 meurtres quand même, ou un peu plus même.
En tout cas, la première partie, c'est
La première partie, terrible. C'est quasiment sadien.
Ouais, absolument.
c'est fou. Hein. D'ailleurs, je ne le sais pas. Je ne sais pas si elle avait lu Sade, mais je trouve qu'il y a quelque chose dans la liberté de ton aussi. Rien ne l'arrête. Et en effet, elle est responsable de... et en plus de 3 morts de figure maternelle. Il y a quand même sa propre mère, Mère Leonora, qui est la supérieure du couvent où elle est recueillie.
Elle va la tuer aussi.
Elle la tue aussi. et Gaïa, qui est la princesse qui la recueille après Léonora, donc, qu'elle laisse mourir sciemment pour être libre.
Elle se marie avec un trisomique, rien que pour avoir le titre de princesse, tout ça pour avoir la liberté.
Oui.
Et quand elle se rend compte qu'elle doit gérer ce grand domaine, cette grande fortune, elle décide de se séparer des terres pour rester libre et pour pas être assujettie non plus à la fortune. C'est que c'est un personnage qui se laisse avoir par rien, on aimerait être comme elle.
Oui.
Et, c'est-à-dire, ni par les relations amoureuses, ni par l'amour, même si un ou deux moments, quand même, elle se fait un peu, voilà. Ni par l'argent.
Elle se fait un peu avoir.
Ni par l'argent, ni par ses propres pensées, ni par la pensée de l'époque, ni par la psychanalyse, ni par la révolution, ni par le communisme.
Ni par l'écriture, puisqu'à un moment, elle...
Vous avez raison.
Elle arrête. Elle dit, j'arrête, il faut pas... Ça aussi, le vouloir être artiste est extrêmement dangereux, c'est un piège, et elle veut pas. Elle ne veut pas se laisser piéger par ça. Donc c'est tout ce qui risque de la piéger, elle laisse, elle quitte pour garder cette liberté par rapport à absolument tout.
Et ce que je trouve aussi, c'est là où vous dites, c'est d'une acuité et d'une intelligence fine, enfin vraiment, c'est très 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 intelligent. Elle se méfie même des mots, c'est-à-dire qu'elle veut garder sa propre liberté par rapport, même avec les mots qu'elle emploie pour s'exprimer. Parce que les mots viennent de l'intérieur, Et il y a beaucoup de choses autour de ça, autour des mots fascistes, et pour pas se fasciser soi-même, et parce que notre intérieur peut nous fasciser, et ça aussi, elle essaie d'être libre par rapport à ses propres mots.
Oui, oui, il faut être vigilant sur tout, en même temps que très libre.
C'est ça.
Il y a une énorme rigueur chez Goliarda Sapienza. C'est pas une liberté débridée, hein. C'est une immense liberté, mais c'est pas le n'importe quoi, pas du tout.
Et c'est pas un chemin de rose
non plus.
C'est-à-dire, c'est un combat.
Oui, oui.
C'est un combat de chaque instant. Oui. Et ce livre, en fait, à chaque page, c'est ce combat-là auquel on assiste. Comment garder sa liberté, comment être ce qu'on veut être en dépit de tout. Elle se fout du qu'en dira-t-on.
Absolument. Mais c'est en effet, comme vous disiez, un livre non seulement de liberté, mais d'affranchissement.
Take me to heart, and I'll always love you, and nobody can make me do wrong. Take me for granted, leaving love unsure. Power weak and temptation strong. A woman's only human, you should understand. She's not just a plaything, she's flesh and blood, just like a man. If you wanna do right, hold on, dangerous woman. You gotta be a do right, hold on, man. Man. Yeah, yeah. They say that it's a man's world. But you can't prove that by me.
Liberté, affranchissement, Modesta est un des plus beaux personnages de la littérature du XXe siècle. À chaque fois que l'on demandait à Sapienza Goliarda d'où lui était venue l'idée de Modesta, elle répondait « Nabokov, Lolita ». Mais Goliarda Sapienza ne disait jamais comme Modesta lui ressemblait. Subversive, insoumise, Modesta refuse tout ce qui pourrait l'entraver, toutes les entraves que pose une société sur un esprit. C'est une femme manipulatrice, meurtrière, exaltée, violente, et la haine est un de ses moteurs. La haine est une force qui l'aide à aller de l'avant. Nathalie Castagnier, traductrice de Goliarda Sapienza.
Exactement, c'est dans la première partie qu'elle dit, elle découvre la force de la haine en disant « je hais », ça a été ma prière, ou ce fut ma première prière, je sais plus. Elle est au couvent, et au lieu de dire « j'aime », elle dit « je hais ». Cette force-là est très présente, et d'ailleurs, même avec Béatrice, il me semble qu'à un moment, elle dit...
Qui est un de ses amours.
Béatrice, à un moment, devient l'agace, elle ne peut plus la supporter parce qu'elle devient pieuse. Enfin, elle retrouve une espèce de piété un peu douceâtre.
Elle minaude,
elle devient... Elle retrouve des peurs, enfin, elle exaspère Modesta, et elle la gifle, elle la bat, elle est très, très, très violente.
Très violente.
Oui.
Et c'est marrant parce que pourtant, vous voyez, elle est la scène dont vous parlez, il y a du sang. Hein.
Oui.
Et on ne la condamne pas.
On ne la condamne pas parce qu'elle ne dit pas... Elle dit à la fois, elle ne dit pas « j'ai mal fait, c'est pas bien du tout ce que je viens de faire », mais elle prend de la distance par rapport à ça et elle le réfléchit et elle dépasse aussi ce mouvement-là qu'elle a eu. Donc on sait qu'elle ne va pas rester figée dans un truc névrotique où elle va se mettre à battre tout le monde ou faire tuer tout le monde. Non, elle avance. Et elle avance et elle surmonte quand même peu à peu des mouvements impulsifs qu'elle a peut-être plus au départ ou qu'elle a brusquement. C'est un drôle de mélange d'ailleurs. Hein. Un personnage aussi réfléchi en même temps qu'aussi, impulsif quand même, et allant aussi loin, enfin, dans les actes qu'elle commet. Ce qui est un mélange, me semble-t-il, très, très inhabituel.
Et très rare, j'allais dire.
Exactement, hein. Très rare, oui, oui, oui. Et ça fait un personnage, alors littéraire, extrêmement inhabituel, me semble-t-il.
C'est un livre sur les femmes. Et c'est un livre juste sur les femmes, sur les femmes et leur corps, sur les femmes et leur culpabilité dans la sexualité, et sur les femmes ennemies des femmes. Hein ? C'est ça que ça dit aussi.
Ah oui, 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 oui. Absolument, bah oui, parce que c'est quand même l'un des thèmes aussi de Goliarda, parce qu'elle avait beaucoup vu ça en Sicile, même si elle donne un portrait complètement atypique de la Sicile, absolument magnifique, n'empêche. Il y a ces femmes qui sont là, et comme dans tous les pays, on le sait, pour expliquer aux femmes qu'elles doivent être bien soumises, bien obéissantes, et que surtout, elles doivent pas être des dévergondées, et que, voilà. Et c'est terrible, c'est terrible. Et c'est un livre d'une femme, elle se pose comme femme, mais comme femme puissante précisément. Et elle donne cette leçon de liberté, d'affranchissement aux autres femmes et aux hommes.
Oui, la liberté qu'elle donne aux hommes, parce qu'il y a des scènes magnifiques avec ce Carlo qui est plutôt un intellectuel et qui a un corps... qui fonctionne mais qui ne sait pas trop comment faire avec son corps et la sexualité. Et elle le fait réfléchir sur son propre corps.
Mais oui.
Et alors qu'il est, c'est un socialiste, c'est un intellectuel, il veut que il est pour le progrès, il n'ose pas la voir nue, il n'ose pas regarder son corps. Et elle, Modesta, lui dit « mais regarde-moi Elle fait ce que Carmine avait fait avec elle, voilà, avec Carlo. Il y a ça. Oui. Et puis, en même temps, il y a aussi toutes, parce que donc c'est, tout ça se passe dans une grande maison, c'est comme une grande fresque. Alors il y a la cuisinière, il y a les servantes, et évidemment elles tombent enceintes des uns, des autres, et elles arrivent là en pleurant, en cachant leur taille qui s'épaissit, et elles les engueulent.
Oui.
En leur disant, mais ça va.
Je pensais tout à l'heure à une scène délectable, je trouve, qui est celle où Inès, qui s'occupe du prince, ouais. Soi-disant, enfin, mari de. Officiellement mari de Modesta, Inès tombe amoureuse de ce prince trisomique.
Ouais.
Et elle attend un enfant de lui. Elle arrive.
Elle pleure.
Dieu, elle pleure. Mon Dieu, princesse, il faut que je vous avoue quelque chose. C'est épouvantable, tout ça. Elle se tord dans tous les sens. Et Modesta lui dit, mais enfin, c'est pas bien grave. Ça va. Tu es heureuse. Tu es contente d'attendre cet enfant. Tu l'aimes. Mais ah ben, tout va bien.
Elle dit deux choses. Elle dit tu veux avorter.
Oui, elle lui dit tu veux avorter aussi. Oui, oui, ah oui. Effectivement, elle lui dit tu veux avorter, c'est simple, mais vas-y vite, fais le plus vite possible. Et puis si tu veux pas avorter, ben tu gardes cet enfant, c'est très bien. Sidérant.
C'est dans les années quoi, 30, 20.
C'est censé être dans les années 20, 30, oui, à peu près. Goliarda, elle écrit dans les années 70 quand même.
C'est-à-dire mais en plein un moment où tout ça bouge.
Où ça bouge, mais quand même. Quand même, c'est ça bouge, mais en Italie, ça bougeait pas si vite que ça.
C'était pas comme ici, sur les années 70 et la libération des
quand
femmes.
Quand même, mais enfin, il y a eu beaucoup, beaucoup de. Quand on voit la réaction à ce livre, je pense que c'était un peu plus compliqué que ça, quand même.
Parce que l'Église est plus présente
en
Italie.
Oui. Pourquoi est-ce que ce livre a été refusé? Sans doute parce que c'était quand même... Elle allait très très fort, hein, très fort dans le...
Bah, tout y
au
passe.
Départ. Bah oui, l'inceste, le la meurtre, jouissance, la jouissance, la masturbation, enfin ouais. Tout quoi. Tout ce qu'il ne fallait pas. Je pense aussi quand même qu'il y a autre chose qui est la liberté du livre, enfin du livre même, de la forme elle-même, qui n'était pas du tout... Tout, mais du tout ce qu'on recherchait dans les années 70, fin des années 70.
Parce que quoi, c'est le nouveau roman?
En Italie, peut-être pas le nouveau roman, mais c'est pas du tout ça. C'est pas du tout. Là, il y a une liberté totale. Et je pense en plus que les gens se sont dit, mais c'est quoi? C'est un roman feuilleton? Qu'est-ce que c'est?
Parce que c'est un roman.
Parce que c'est un vrai roman. Un vrai roman.
C'est une saga.
C'est une saga et c'est un roman où elle ne s'interdit rien comme rebondissement invraisemblable. Je veux dire, cette femme qui devient princesse en épousant, en se faisant passer pour une sainte qui épouse plus ou moins un trisomique, c'est, ben, quand on y pense, quand on ne voit que le sujet, si c'était écrit autrement, on se dirait, mais c'est complètement abracadabrant. Sauf que c'est génial.
C'est baroque.
C'est baroque. C'est une presque à certains moments, je dis quant au style, c'est presque maniériste même. C'est pas seulement baroque, c'est maniériste. Mais en effet, il y a trop de liberté là-dedans. Il y a trop de liberté stylistique. Il y a trop de liberté de romanesque. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On écrivait comme ça au 19e siècle, pas au 20e.
C'est ça. On écrivait comme ça au 19e siècle, mais pas au 20e.
C'est pas moderne. Ça n'est pas moderne. Alors que au contraire, elle est en avant par rapport à ce qui se faisait, mais ce n'est pas ce qui se faisait. Personnellement, je pense qu'il y a de ça dans le refus éditorial.
D'accord.
En plus du scandale moral.
Vous avez mis combien de temps à le traduire? Parce qu'attendez...
Environ 6 mois. À peu près 6 mois.
6 mois avec Modesta.
Ah oui, ça a été plus de 6. Oui, 6 mois avec Modesta. Mais ça a été plus de 6 mois avec Goliarda. Non, mais à vrai dire, j'avais demandé 6 mois parce que je ne voulais pas être trop pressée non plus. Je voulais pouvoir souffler à certains moments parce que je me doutais que quelque chose de cette densité, il fallait aussi pouvoir de temps en temps s'en extraire.
Ça vous a englouti par moments, non?
Ça risquait. Ça risquait d'être un peu engloutissant, oui. Bon, là, c'était quand même très particulier comme rencontre. C'est-à-dire que quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, mais ça, il faut que je le traduise. Et je me le dis très rarement. Hein. Et j'ai pas eu. Non. Alors, la peur que j'ai d'habitude curieusement, je ne l'ai pas eu parce que, on va revenir à Carminet, le désir a surmonté la peur.
Oh, c'est bien.
Non, mais curieusement, je crois que je n'ai pas eu vraiment peur, ce qui était peut-être un peu inconscient d'ailleurs, parce que ce livre me parlait entièrement. Et pourtant, je ne ressemble pas à Goliarda, je suis quelqu'un d'autre. Non, mais en lisant, c'est très étrange, il y a quelque chose de sa liberté, je crois, que j'ai reconnu comme étant peut-être quelque chose qui me ressemblait.
Et vous ne croyez pas que c'est ce qui nous arrive à toutes en lisant ce livre ?
Si, peut-être. C'est un peu énigmatique. Qu'est-ce qui fait que ce livre m'a parlé à ce point ? Je ne peux même pas le dire. Ce refus du dogmatisme, ça c'est clair que ça me parlait. Oui, oui.
Moi j'ai été justement impressionnée par cette acuité et sur le communisme et l'histoire du communisme et sur dire que c'est une église et aussi sur la psychanalyse.
Absolument.
C'est-à-dire, oui. Elle veut comprendre ce que c'est que le personnage Modesta, oui. Veut comprendre ce que c'est que cette nouvelle chose, cette histoire de cette psychanalyse. Et elle s'en affranchit comme du reste, c'est-à-dire elle ne veut pas se laisser enfermer dans cette pensée-là.
Il y a un livre de Goliarda, un livre autobiographique, qui raconte ça, la psychanalyse qu'elle a eue avec un psychanalyste fort peu orthodoxe d'ailleurs, qui est devenu fou, parce qu'il fallait bien ça pour Goliarda quand même. Mais, et où elle fait une critique, là aussi, de la psychanalyse, et du dogmatisme psychanalytique et de la manière dont on doit être s'enfermer dans un certain nombre de tracés tout fait et desséchant. Et c'est vrai qu'on retrouve un écho de ça. Là-dedans, en même temps, elle disait que la psychanalyse avait été une expérience très très importante pour elle et on le croit.
Mais ça, c'est pas antinomique.
Non.
Comment vous avez fait ? Comment c'était une langue difficile à... Comment vous êtes cogné à cette langue ou alors, pas ? Comment vous avez fait pour la faire vôtre ?
Alors, je ne prétendrai pas que ce soit absolument facile, mais j'ai quand même eu une expérience tout à fait particulière avec ce texte. C'est qu'il me portait complètement. Je l'ai compris, enfin, je l'ai senti dès que j'ai lu. J'ai rendu une centaine de pages très très vite, complètement portée par cette écriture. C'était très étonnant, parce que j'avais l'impression de comprendre même ce que je ne comprenais pas, puisqu'il y a du sicilien. C'était très, très bizarre.
Alors, vous voyez, c'est intéressant, parce que moi, j'ai commencé cette interview en me disant, je vous envie, vous êtes notre première lectrice, et celle qui a fait qu'on a pu découvrir Goliarda Sapienza, et sa grande héroïne Modesta en France. Mais en même temps, ce que vous êtes en train de me dire, en plus, c'est que ce texte vous a choisi
d'une certaine
comme
façon.
Traductrice.
Bah, c'est le sentiment que j'ai eu, ce qui est rarissime. Je crois que je l'ai eu 2-3 fois dans ma vie de traductrice, pas plus. Et là, tout particulièrement, je dois dire. Je me suis dit, c'est un hasard. Mais c'était vraiment un hasard qui pour moi apparaissait comme une nécessité. J'aurais été très malheureuse de ne pas traduire ça.
L'art de la joie, l'art de la fugue. Jusqu'à 21h sur France Inter, Nathalie Castagnier, traductrice amoureuse de Sapienza Goliarda.
Comment vous l'entendez, vous, ce titre, L'art de la joie?
Goliarda était quelqu'un pour qui la musique comptait beaucoup.
Elle a failli être pianiste.
Voilà, je pense que c'est l'art de la fugue, un peu. Que le titre a été un peu inspiré de l'art de la fugue.
De Bach?
De Bach, oui. L'art de la joie, c'est un titre très étrange pour moi, je dois dire. Je ne sais pas si j'aurais intitulé comme ça ce livre, mais la joie, ce n'est pas le bonheur. C'est-à-dire que la joie, c'est ce qui permet de prendre en charge les tragédies, les côtés complètement sombres et négatifs de la vie.
C'est une manière d'être au monde, non ?
Une manière d'être au monde, oui. Mmh. Oui, oui, la joie, c'est une chose qui va, je crois que des philosophes allemands en ont parlé, qui va avec le côté tragique de l'existence.
Même avec la conscience du tragique et du désespoir. Mmh. Hein. La joie, c'est une prise de parti, c'est une prise de position. Voilà. J'aime bien cette idée-là. La joie comme l'endroit d'où il faut parler, ou peut-être est l'endroit où il faut se mettre pour pouvoir essayer, au tout moins tenter d'être libre.
Je pense que c'est ça, et surtout ne pas se laisser engloutir par les forces négatives, la complaisance dans le malheur, etc.
Elle déteste ça, oui. Modesta.
Oui. L'art de la joie, c'est un roman de formation, on peut dire, qui dure jusqu'à 60 ans, et elle dit, mais voilà, là on est beaucoup plus libre, et c'est extraordinaire.
Alors là, je peux vous dire que j'ai bu du petit lait en relisant les dernières pages, quand elle dit que les meilleures années, c'est entre 50 et 60 ans, que là, enfin, on y est. Mmh. Ah, je me suis dit, bon, alors c'est bien.
Et oui, puis cette fin absolument magnifique qui montre d'ailleurs que elle n'est pas. C'est un livre qui est contre tout dessèchement, qui laisse sa part à quelque chose d'extraordinairement mystérieux, puisqu'elle dit la mort, ça va être une nouvelle expérience.
De jouissance.
Et de jouissance, c'est extraordinaire. Puis cette chose alors, magnifique littérairement, qui est le fait que le livre retourne sur lui-même, puisque les derniers mots, c'est raconte Modesta, raconte. No, non si può comunicare a nessuno questa gioia piena dell'eccitazione vitale di sfidare il tempo in due, d'essere compagni nel dilatarlo, vivendolo il più intensamente possibile prima che scatti l'ora dell'ultima avventura. E se mio vecchio ragazzo si stende su di me col suo bel corpo pesante e lieve e mi prende come ora fa, o mi bacia fra le gambe proprio come Tutsu faceva allora, mi trovo a pensare bizzarramente che la morte forse non sarà che un orgasmo pieno come questo. Dormi, Modesta? No. Pensi? Sì. Racconta, Modesta, racconta.
Non, on ne peut communiquer à personne cette plénitude de joie que donne l'excitation vitale de défier le temps à deux, d'être partenaire dans l'art de le dilater en le vivant le plus intensément possible avant que ne sonne l'heure de la dernière aventure. Et si cet homme s'étend sur moi avec son beau corps léger et me prend, comme il le fait maintenant, ou me baise entre les jambes comme Tutsu le faisait autrefois, je me retrouve à penser bizarrement que la mort ne sera peut-être qu'un orgasme aussi comblant que celui-là. Tu dors, Modesta? Non. Tu penses? Oui. Raconte, Modesta, raconte. L'art de la joie, Rome, 1967-1976.
C'est magnifique.
Ah, c'est magnifique.
Que belle.
Che bello, Angelo. Angelo avait 29 ans quand il a rencontré Goliarda Sapienza. Elle avait 20 ans de plus que lui, il a été son dernier compagnon. Angelo, c'est le dernier grand amour de Sapienza Goliarda. C'est lui qui s'est battu pendant 20 ans aux côtés de Sapienza pour qu'elle soit publiée. 20 ans de refus éditoriaux, vous imaginez? 20 ans de solitude. C'est grâce à lui que Sapienza n'est pas tombée dans l'oubli. Il a d'ailleurs écrit un joli petit livre de souvenirs sur elle. Sapienza, c'est son grand amour, un amour qui restera vivant jusqu'à la fin de ses jours. Et moi, j'ai eu la chance de le rencontrer quand il était de passage à Paris. Angelo Maria Pellegrino. Angelo, quand je vous vois, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est de vous dire, alors le combat pour que Sapienza Goliarda continue à exister, vous l'avez gagné, ce combat-là.
È vero, è molto bello quello che tu hai detto. La lotta è stata vinta.
Oui, c'est vrai, c'est très beau ce que tu as dit. Le combat a été gagné.
È stata una lotta dura e difficile, ma molto entusiasmante.
C'était un combat long et difficile, mais très enthousiasmant.
Una lotta che valeva la pena combattere.
Un combat qu'il valait la peine de mener.
Per ridare l'onore a Goliarda.
Pour rendre l'honneur à Goliarda.
E riparare a una grave ingiustizia che la società letteraria italiana le aveva fatto.
Et réparer la grande injustice que la société littéraire italienne lui avait faite.
Soltanto invece tanti lettori felici di conoscere l'arte della gioia, in primis sono stati i lettori francesi che hanno compreso la grandezza dell'arte della gioia. Io ringrazio qui la cultura letteraria di Francia, la grandezza intellettuale di questo paese che ha saputo riconoscere l'arte della gioia.
Oui, le résultat de ce combat était le bonheur de beaucoup de lecteurs de connaître l'œuvre de Goliarda Sapienza, notamment l'art de la joie. Et Angelo tient à remercier les Français, qui est la culture française, l'intelligence culturelle française. Donc ce public qui est pour le premier a accueilli, a reconnu la valeur de l'art de la joie.
C'est quand même fou, non, que ce soit ici qu'elle ait été reconnue.
Bah, è chiaro che parlo dal senno di poi. Oggi però mi rendo conto che non poteva che avvenire qui.
Je parle évidemment après coup, mais maintenant je pense que ça ne pouvait arriver qu'ici.
Et pourquoi?
Perché molte cose sono della cultura francese, c'è tanto illuminismo, spirito libertario. Goliarda veniva da una famiglia appunto di libertari anarco-socialisti che hanno molto a che fare con una certa cultura francese.
Parce qu'en fait, le livre a beaucoup à faire avec la culture française, les Lumières, l'esprit libertaire. Et la famille de Goliarda était justement constituée, enfin ses parents étaient des socialistes, anarchistes, libertaires, pour qui toutes ces choses-là étaient importantes et très existantes. Et dans le livre, on retrouve un aspect de cette culture française-là, du moins.
Il libro che ci ha uniti come un figlio insieme è stato L'arte della gioia.
Le libro che nous a réuni comme si c'était un enfant que nous avions fait ensemble, ça a été L'art de la joie.
Est-ce que vous maintenant vous vivez autrement depuis que cet enfant a pu naître?
Beh, sicuramente sì. Sono molto contento tutti i giorni perché abbiamo vinto, abbiamo portato a termine una grande impresa che mi dà una grande soddisfazione. Può sembrare ridicolo, ma nutre la mia giornata.
Oui, c'est quelque chose qui nourrit mes journées. Et je peux dire que je suis vraiment très heureux parce que par cette parution et cette diffusion de l'art de la joie, parce que voilà, nous avons gagné, on a mené à bien cette grande entreprise.
Et c'est qui ce nous?
Io e Goliarda, naturalmente.
Goliarda et moi, bien sûr.
Io parlo sempre con Goliarda come se fosse viva, per me non è mai morta. E quindi spesso le ripeto, Goliarda, ce l'abbiamo fatta.
Pour moi, Goliarda n'est pas morte. Je lui parle comme si elle était vivante, parce que pour moi, elle est toujours vivante. Et souvent, je lui dis, bon, Goliarda, ça y est, on y est arrivé.
Jusqu'à ce moment, il y a beaucoup de traductions, beaucoup de langues. Il y a 27, traduit dans 27 pays et 15 langues. Européenne ou non, mais anglais, finlandais, turc, grec, albanaise, croate, macédone, Catalogne fut un gros succès.
C'est fou, hein, c'est quand même formidable, non, ça vous, Nathalie, hein, ça vous...
C'est extraordinaire de penser que, voilà, à partir de finalement de la traduction française, d'une certaine manière, ça s'est diffusé comme ça dans tant de pays, de cette façon, c'est fou.
Ça donne du sens, oui, non, à ce que vous faites,
ben oui.
Et à ce que vous êtes,
non ben oui, bien sûr.
Et c'est pas un peu triste de penser que Goliarda Sapienza... elle n'aura jamais vu ça, elle n'aura jamais imaginé, et elle aura tellement souffert de ne pas être publiée. C'est quand même rageant, quoi. Non, rageant. Vous comprenez le mot rageant?
Rabbia. Questa amarezza non finirà mai. Ma il modo per combatterla è pubblicare la sua opera.
La seule façon de combattre cette chose désolante, c'est de la publier. C'est de publier l'œuvre de Goliarda.
Bravo à vous deux, en tout cas.
Ouais. Moi, je pense quand même que Goliarda, en un coin d'elle-même, devait savoir qu'un jour, son œuvre serait connue. Et Modesta aussi.
Vous êtes d'accord avec ça?
Je suis d'accord, très d'accord.
Elle savait ce qu'elle avait fait. Elle devait se dire qu'un jour, ça arriverait. Ils y arriveraient.
Aujourd'hui, il y a un prix Goliarda Sapienza qui récompense et publie chaque année des récits de prison. Il y a des études, des colloques qui fleurissent autour de l'œuvre de Sapienza. L'université italienne elle-même a reconnu Goliarda comme l'un des plus grands noms du roman italien. Les prestigieuses éditions Einaudi se sont engagées dans la parution de ses œuvres complètes. Et en 2007, dans la ville où Goliarda est enterrée, on a élevé une stèle en son honneur sur laquelle on a gravé cette inscription « À la mémoire d'une voix libre ». Merci à Angelo Maria Pellegrino, merci à Nathalie Castagnier. Les livres de Sapienza Goliarda sont édités aux éditions Tripode, qui se sont elles aussi engagées à publier les œuvres complètes de Sapienza Goliarda. Voilà, c'est fini pour ce soir. On se retrouve vendredi prochain à 20h, l'heure des rêveurs.
Merci Zoé Varie, à la semaine prochaine.